La sexploratrice.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec la sexploratrice Mel Trudel et Louis Gauvin.
Yes!
Yes! Louis, on va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup. Quelqu'un qui présente des conférences gratuites. Donc, des conférences qui sont à la portée de tous sur une page Facebook qui est le partage au masculin. Et on a l'honneur de parler avec Sylvie Rousseau, psychologue depuis 2005 au Québec, spécialisée des troubles de l'anxiété, des couples. Elle est également conférencière et auteure de plusieurs livres qui portent sur la résilience, les relations de couple, le bien-être psychologique et tout. Et Sylvie Rousseau est au téléphone avec nous. Bonsoir.
Hey, bonsoir Mélanie, bonsoir Louis.
Bonsoir.
Bonsoir Sylvie. Donc, vous présentez une superbe conférence, encore une fois, le 29 janvier. C'est une conférence qui est gratuite, c'est bien ça?
Oui, c'est bien gratuit. C'est une nouvelle conférence. Je fais depuis maintenant 3 ans des conférences via le Facebook de partage au masculin, comme vous avez dit Mélanie. Et là, celle-ci, c'est vraiment nouveau. J'ai eu le goût d'approfondir le sujet de la satisfaction conjugale en ce début d'année.
Satisfaction conjugale. Wow. Donc, on va parler de comment évaluer sa satisfaction conjugale ou comment, en quoi ça consiste exactement?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la façon que les partenaires ont d'évaluer, vous l'avez tout à fait bien dit, la relation en fonction de ce qu'ils avaient espéré qu'elle soit, de ce qu'ils avaient imaginé qu'elle serait. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très subjectif tout ça, là. Ça va varier d'une personne à l'autre. Ils vont tenir compte aussi, bien sûr, de leurs besoins, de leurs attentes et les fichus d'attentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre couple, Mélanie. Moi, j'ai remarqué ça dans le mien. J'ai remarqué ça dans les couples qui me consultent. On a souvent des attentes et des attentes qui sont par moments irréalistes. Et donc, la satisfaction conjugale va dépendre de l'écart qu'on perçoit entre ces attentes-là qu'on avait idéalement au tout début de la relation amoureuse et la réalité. Puis quand c'est pas satisfait, ben là, souvent les partenaires en viennent à croire que leur relation est en difficulté. Comprenez-vous? Parce qu'ils vont comparer au début. Au début, oh wow, on était donc bien passionnés au début. Hey, wow, au début, on faisait l'amour plus souvent. Oh wow, au début, quand on se parlait, mon Dieu, qu'on se comprenait bien.
Oh,
et là, comme c'est plus tout à fait ça, ben, ils doutent de la qualité de leur union. Est-ce que ça résonne quelque chose en vous, Mélanie?
Mais oui, ça me rappelle un peu les gens qui tombent amoureux du potentiel de la relation. Parce qu'en début de relation, c'est pas la réalité, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Et j'ai déjà lu qu'il n'était pas recommandé d'officialiser un couple quand on est en début de relation parce que c'est pas le réel qui nous est présenté, comme vous dites. T'sais, on se crée des attentes et tout ça, mais on est encore en mode passionnel, on est en mode représentation, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement eux-mêmes là sous l'effet euphorisant de tout ce que crée là l'effet de la passion des débuts et tout. Puis je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il y a des gens qui vont vraiment visualiser la relation, vont s'attendre à ce que la relation soit ça, et comme vous dites, après un certain temps, c'est pas ça. Ils se sont projetés alors que c'était pas représentatif de ce qu'ils vivaient réellement. Et là, ben ça fait des relations qui vont directement dans le mur, là.
Oui, ça fait des gros écarts. Ça fait que les gens, quand ils se frottent à la réalité du quotidien, ben là, ils voient que c'est pas pantoute comme c'était dans l'amour romantique, la lune de miel du départ. Parce que oui, vous dites bien, au départ, on idéalise la relation, hein. On a tendance à trouver même mignon les petits défauts, les petits travers de l'autre. Mais ces mêmes petits défauts et travers-là, quand on arrive vraiment dans la vraie vie, ça nous tape ses nerfs. Puis il y a des fois que là, on a de la misère à accepter ces différences-là. Fait que je pense que c'est important, comme des entrevues comme celle de ce soir, Mélanie, qu'on en vienne à ajuster nos attentes par de l'éducation en disant aux couples qui nous écoutent, ben que les fluctuations de la passion, les conflits, les compromis, c'est normal dans une relation au long cours. Fait que donc, quand on sait ça au départ, puis que ça griche dans la relation parce qu'on a des désaccords, on pense pas tout de suite à fuir la relation puis à dire, bon, ben, si je me suis encore trompée, il y a encore de la chicane. Il va y en avoir de la chicane. C'est la façon qu'on se chicane qui fait la différence chez les couples qui durent. Hein? C'est pas tant l'absence de chicane. Et ça, c'est important, selon moi, de normaliser ça et de savoir aussi que la satisfaction conjugale, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, Mélanie, mais ça suit une courbe en U. Donc, ça veut dire qu'au début de la relation, dans la phase de lune de miel dont on vient de parler, habituellement, le niveau de satisfaction est généralement élevé. Parce que c'est nouveau, parce qu'il y a cette intensité-là émotionnelle, l'intensité aussi de ce qu'on...
On laisse passer beaucoup de red flags aussi en début de relation, hein? Il y a des choses qui sont évidentes, qui ne nous plaisent pas, mais qu'on se dit « Oh, mais c'est une relation, c'est pas parfait, ça me gosse, mais oh, il fait ci, il fait ça, ou elle fait ci, elle fait ça, mais... » Puis finalement, au fil du temps, ben ça... Souvent, les red flags ignorés en début de relation sont la raison pourquoi on quitte la relation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et qui, je pense, est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben moi, je suis pas mal d'accord avec vous. Que c'est parce que dans ce temps-là, on dit souvent que l'amour est aveugle. Donc, c'est, de toute manière, c'est pas le vrai amour. Hein? L'amour nécessite de connaître vraiment l'autre. Donc, c'est plus la passion, c'est plus bon ce que je ressens dans mon corps, ce que je ressens dans mes émotions. Ok, c'est avec ça souvent que je suis en amour. Et ça, ben même s'il y a les petits travers dont on parlait tantôt, bon, on ignore ça, on met ça sous le tapis. Mais ça fait en sorte quand même que il y a pas mal de satisfaction à ce moment-là, parce que justement, j'ai tendance à voir les bons côtés, puis à mettre de côté ce qui pourrait m'énerver. Puis avec le temps, là, on va remarquer, pour les amours au long cours, encore une fois, qu'il va y avoir une baisse progressive de la satisfaction. Parce que là, la routine embarque, les responsabilités, que ce soit lié au travail, aux enfants, les stress financiers. Donc là, ça va limiter les opportunités de connexion émotionnelle. Donc, on gère tout ça. Ça engendre de la fatigue et ça peut réduire les moments d'intimité. Donc, c'est normal dans la courbe en U qu'il y ait comme ce creux-là à un moment donné. Et le fait de le savoir, ça ne veut pas dire qu'on va subir ça puis on va attendre juste que ça passe. On peut quand même, bon, bien sûr, prendre soin de la relation. Mais quand on normalise ça, ben, on ne va pas penser nécessairement que notre couple est en difficulté. Et finalement, dans le haut du U, ben c'est quand les enfants quittent la maison, quand on a moins de pression, là, la satisfaction a tendance à remonter parce que les partenaires ont plus de temps, plus d'énergie à consacrer à leur relation. Mais, bon, même si les recherches disent ça, Mélanie, j'aurais tendance à mettre bémol là-dessus. Ça dépend si on a pris soin de notre relation. OK, parce que si on n'a pas été dans une communication bienveillante, si on a mal géré nos conflits, si on n'a pas passé du temps de qualité ensemble, si on n'a pas eu des projets ensemble, ben les enfants ont bien beau quitter la maison, on va se retrouver plus avec deux étrangers et de l'insatisfaction conjugale.
Et il y a des gens également qui vivent le deuil du nid vide, le syndrome du nid vide lorsque les enfants quittent. Hein? Donc, c'est pas tout le monde qui voit ça comme une espèce de... reprise de totalement de leur relation à deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui,
est-ce que,
tout à fait. Oui, hein? C'est que si l'intimité au niveau du cœur, si la connexion émotionnelle n'a pas été là, quand on fait face à des transitions importantes comme ça, on peut vivre ça chacun de notre bord. Alors que si on est capable, peu importe dans quelle étape de la vie amoureuse on est, de parler des vraies affaires, comme on dit. On parle de ce qui va, de ce qui va pas bien. On va parler aussi de nos besoins, de nos préoccupations, de nos rêves, de nos espoirs, de nos projets. On va faire des activités ensemble. On va avoir des petites attentions l'un pour l'autre. On va souligner les bons coups, bon, les qualités. On va pas juste comme mettre l'accent sur les défauts. Ben, si on prend soin de notre relation de cette façon-là, d'une façon régulière, ben quand on fait face à des grosses transitions, ben là on va être ensemble dans le même bateau. Sinon,
toujours
ben,
une question de communication.
Ben il y a beaucoup hein, la communication et la vraie communication de parler de ce qui se passe en dedans de nous autres.
Oui.
Ok, puis des fois j'ai des clients qui disent ouais mais bon mon Dieu ça devrait pas être de même Sylvie là c'est donc bien compliqué cette affaire-là. Ok, pourquoi que je devrais nommer mes besoins? Il me semble que c'est clair. Ben non, c'est pas si grave que ça.
Ouais.
OK, donc c'est pas parce que l'autre laisse des sous-entendus que moi je devrais lire entre les lignes. Responsabilisons-nous, nommons ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, sans s'attaquer, sans critiquer l'autre. Et ça, ben c'est des bonnes stratégies pour préserver la satisfaction conjugale dans le temps. OK, on priorise la relation, on remet en question nos attentes irréalistes, et dans le day-to-day, dans le quotidien, ben, on prend soin de soi, hein, parce que pour être une bonne compagne envers mon partenaire, je dois être une bonne compagne envers moi d'abord. Donc, de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me faire du bien, mais aussi de prendre soin de la relation.
Et je sais qu'une étude a prouvé à un certain moment que les couples les plus heureux étaient ceux qui se faisaient des compliments 10 fois plus que de reproches.
Oui, oh oui, c'est bon que vous amenez ça. Oui, ça, c'est John Gottman. Alors, oui. Les auditeurs, auditrices, là, si vous avez la chance de mettre un livre sur John Gottman, c'est un psychologue américain. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Seattle il y a quelques années, assister à une formation de 4 jours avec cet homme-là, ce psychologue-là, qui est un grand chercheur. 4 jours de temps où est-ce qu'il y avait 0 note devant lui, où est-ce qu'il nous parlait de ses recherches et de comment est-ce qu'il accompagnait les gens. Et une des conclusions de ses recherches, c'est ce que vous dites, Mélanie. Gottman lui dit 5 fois, donc 5 fois plus de remarques positives, de compliments, de okay. plus d'attention. Et quand
c'est
on fait
compliqué.
Ça... C'est pas oui. compliqué, c'est des petites affaires, c'est bien beau ce que tu portes, oui. tu sens bon, merci pour de
merci
m'avoir
pour
apporté
mon café.
Le café. Oui, ça coûte rien.
Ça, là, okay, c'est de base, mais le café du matin, là, c'est... Hey, je m'excuse, oui. je vous ai coupé. Il y a un petit délai, je pense. Entre notre... Je suis désolée. Le petit café du matin, là, essayez de prendre la routine de vous l'offrir chacun votre tour, ou le premier qui se lève, ou le premier qui arrive dans la cuisine, fais le premier café pour ton partenaire, ta partenaire, juste ça, là, c'est un petit quelque chose, un petit rien qui débute si bien la journée, puis un câlin de 6 à 20 secondes. Il paraît que c'est prouvé, ouais. là, que ça fait sécréter de l'oxytocine, puis que c'est l'hormone de l'attachement, puis semble-t-il que ça fait une grosse différence, un petit câlin, là, de 6 à 20 secondes, ça peut paraître long des fois, mais ça vaut la peine, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec
Et
ça.
Et moi, je suis tellement d'accord avec ça, un beau câlin connecté. Comprenez-vous pas un petit câlin à la sauvette, là? On prend le temps de s'abandonner dans les bras l'un de l'autre, là. C'est ça, moi, je dis souvent aux couples qui me consultent, on met de l'argent dans le compte de banque affectif quand on fait ça. OK? C'est payant de faire ces petites attentions-là. Donc, quand il y a de la chicane, quand il y a des désaccords, ben, on va pas vider tout notre compte de banque parce qu'on va avoir ce petit coussin-là. Alors, faisons ça, ça va amener plus de satisfaction conjugale, mais ça amène tellement un beau climat dans la maison et ça fait en sorte que, bon, je me sens plus en sécurité aussi dans la relation. Je me conduis comme la partenaire que j'ai envie d'être, en espérant que l'autre va faire la même chose. On compte pas les tours d'ascenseur. Il y a des fois qu'on est moins dans notre assiette. Mais que si chacun s'investit et qu'on n'attend pas, et ça, je dis ça souvent à mes couples qui me consultent, on n'attend pas que toutes les blessures soient refermées pour se conduire de cette façon-là. Je sais pas si vous avez entendu ça, Mélanie, mais moi, c'est quelque chose qui vient souvent à mes oreilles. Ouais, ouais, c'est bien beau ça, c'est bien beau Sylvie. Mais pourquoi que lui le fait pas? Pourquoi que elle le fait pas? OK, moi, je suis encore trop blessée, je le fais pas. Ben, si j'attends
ça, les blessures ont le dos large, hein?
Ben, c'est parce que si j'attends que tout soit refermé, ben, il peut se créer encore un écart de plus en plus grand entre nous deux. Alors, on fait comme je suis consciente de mes blessures. Je vais donner beaucoup de compassion et de réconfort à cette partie-là de moi qui souffre. Et je peux faire, malgré la présence de la blessure, un pas, un tout petit pas vers l'autre. OK, ce que vous parlez, ce que je parle ce soir, Mélanie, c'est pas des grosses affaires, mais ça nous amène de mettre un peu notre ego de côté, ça nous amène d'être avoir vraiment de la bienveillance envers la partie de nous qui souffre, mais quand même de poser cette action-là. Et ça, je crois vraiment qu'au niveau de la satisfaction conjugale, si on fait ça de façon répétée, ces petites actions-là peuvent faire une grande différence.
Exactement. Et on a parlé, bon, au début là, de l'entrevue, des moments, des fluctuations où il y a des moments, bon, où on s'entend peut-être un peu moins bien, des trucs comme ça. Mais est-ce que vous croyez que dans tous les couples, il y a réellement une phase de désenchantement ou ça peut être évité, ça, ou pas nécessairement évité, mais ça se pourrait que ça se présente pas, disons. Est-ce que ça se peut qu'on soit Est-ce qu'il y a des couples qui sont à vie ou longtemps ensemble et qui sont constamment en admiration devant l'autre, disons? On dit, j'ai l'impression que c'est pas... parce qu'on entend souvent ça, puis j'ai discuté avec un autre psychologue qui me disait « Ah non, c'est inévitable la phase de désenchantement. » Mais on dirait que j'ose espérer que ça se peut des couples qui ne vivent pas nécessairement de désenchantement, qui réussissent à continuer d'admirer l'autre, de vivre, tu sais, sans dire qu'il n'y a pas de conflit, mais de vivre ça sainement longtemps, là.
À mon avis, c'est une attente irréaliste, Mélanie.
C'est vrai, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec l'autre psychologue.
Bon. Puis en général, elle vient vite. En général, elle vient quand même vite.
Elle vient habituellement, on dit entre 18 mois et 2 ans, et des fois plus tôt que ça, si on commence la cohabitation plus rapidement. Donc, c'est vraiment le quotidien qui peut en arriver à créer, bon, ce genre de, on appelle ça la lutte pour le pouvoir, ce dont on parle, parce que là, les petits travers du début, là, on les voit, et là, ça nous gosse, comme on disait tantôt, pas mal, et là, j'essaye de le changer. J'essaie de l'amener à se comporter d'une autre façon. J'essaie de lui montrer que c'est moi qui ai raison.
Ouais, c'est ça, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, le potentiel de la relation. J'aimerais tenter de le ramener là où moi, je l'ai imaginé, finalement.
Oui.
Ce qui est complètement irréaliste.
Oui, je suis vraiment d'accord avec vous, parce que qu'est-ce qu'on a vu au début qui n'était pas la vraie vie, là, parce que là, on se met sur notre 36, on sent bon, on est belle, on écoute attentivement, puis on protège, on est dans un beau petit cocon. Ben la vraie vie, on n'est pas toujours dans le beau petit cocon. Ça veut pas dire, par exemple, qu'on doit s'enliser dans cette étape-là. OK, il y a des couples qui en arrivent bien à sortir de ça pour partager le pouvoir, pour en arriver à accepter les différences et même à voir les différences comme une source d'enrichissement.
Oui.
OK, mais si je passe ma vie à vouloir changer l'autre puis à faire comme ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'il pense, ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'elle se comporte, puis que là, je veux tout le temps comme tirer la couverte de mon bord, je vois des couples, Mélanie, qui sont là-dedans pour toute leur vie, avec un niveau de satisfaction assez bas. Alors là, on peut faire quelque chose, même si c'est inévitable de passer par cette étape-là, on peut passer à travers plus rapidement, bon, en appliquant bon les petits trucs dont on a parlé précédemment. Comprenez-vous, c'est pas des grosses affaires, mais d'accepter que l'autre pense pas comme moi, accepter que l'autre ne se comporte pas toujours de la façon que je voudrais, et de laisser l'autre libre d'être qui il est. Okay, c'est pas moi qui dois changer l'autre. Qui je suis pour dire à l'autre que hey, c'est pas correct ta façon de penser? Ben, c'est juste différent de la mienne. Ça peut être riche d'écouter l'autre jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à tel sujet.
Oui. Donc, c'est vraiment...
J'aurais aimé ça dire qu'on reste tout le temps là-dedans. Mais même si vous travaillez fort, il va y avoir quand même cette période-là, un peu de désillusion, de désenchantement, comme vous disiez. Mais là où est-ce que de l'espoir, c'est qu'on peut, en mettant en pratique des petites choses au quotidien, faire en sorte qu'on reste moins longtemps coincé dans cette phase-là.
Mais oui, c'est normal. Tu sais, l'absence de mystère, c'est un tue-l'amour. Puis inévitablement, si on cohabite en plus, c'est peut-être pour ça qu'il y a une belle réussite au niveau des couples qui vivent des relations à distance. Il y a des couples qui vivent des relations à distance qui semblent encore plus satisfaits parfois que des couples qui cohabitent, là. Mais c'est ça. Chacun sa formule, hein, dans le fond. Mais on a les outils, là, avec cette conférence-là que vous présentez. On va avoir les outils pour faire de l'autre un plus à notre vie. C'est sûr que c'est important aussi d'être bien seul d'abord et avant tout pour faire de l'autre un plus et pas un manque à combler et s'attendre à ce qu'il comble tous nos besoins non plus. Là.
Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, la relation que j'ai avec moi-même, okay, en sachant que je suis responsable de mes besoins, que l'autre n'est pas là pour combler tous mes besoins, mais c'est sûr que si je décide d'être en couple, je m'attends, et ça, je pense pas que ce soit une attente irréaliste, mais je m'attends à ce que l'autre ait une sensibilité par rapport à mes besoins et qu'ensemble, on puisse cheminer, évoluer. OK? Puis de plus en plus, les couples, je retrouvais pas ça au début de ma pratique. Mais maintenant, j'entends de plus en plus d'hommes et de femmes dire, moi, je veux être en couple pour évoluer ensemble, hein, pour comme grandir ensemble. Mmh. Avant ça, j'entendais pas des choses comme ça, mais maintenant, c'est une valeur ajoutée quand on trouve un partenaire, si on a déjà ça à l'intérieur de nous, si on trouve un partenaire qui va aussi dans ce sens-là. Fait que travaillons sur nous-mêmes, reconnaissons nos propres enjeux, nos valeurs, nos besoins, nos limites, et avec respect les amener à l'autre. Et si l'autre a aussi cette ouverture-là pour accueillir ça et parler aussi de son propre intérieur, de sa propre vie intérieure, ben là, on va avoir une relation qui va être riche. Elle sera pas exempte de conflits.
Okay? Non,
mais
c'est ça.
On a des bons ingrédients pour mieux les traverser.
Voilà.
C'est on va approfondir ça, Mélanie, mercredi prochain, le 29 janvier à 7h. Donc, les gens peuvent tout de suite aller voir sur la page de Partage au masculin pour s'y inscrire. Et les femmes de Lévis et des environs, mesdames, si vous avez envie de poursuivre la discussion en présentiel avec moi, je vais être au Centre Femmes de l'Ancrage à Lévis le 27 mars. Donc, tout un après-midi où il va être question, justement, de conseils pratiques pour améliorer la relation de couple, pour être plus satisfaite dans notre relation de couple. Fait que c'est vraiment un bel approfondissement qu'on va faire, mais en live cette fois-ci. Fait que deux dates à retenir, en virtuel la semaine prochaine, le 29 janvier, puis en présentiel au Centre Femmes L'Ancrage le 27 mars, en après-midi.
Ah, mais là, on va se reparler d'ici là, pour mars.
Oh oui, parce que j'en fais une autre, Mélanie, en février. Donc, c'est sûr que je vais vous proposer un autre thème pour le mois de février.
C'est génial. Merci beaucoup. Sylvie Rousseau, psychologue. Vous pouvez assister à la conférence gratuitement sur la page Facebook, sur votre page Facebook, ainsi que sur la page Facebook de Partage au masculin. C'est bien ça?
C'est bien ça, Mélanie. Merci beaucoup de m'avoir reçue.
Bonsoir, un immense merci à vous.
Merci,
toujours
bonsoir.
Un plaisir.
Merci, à la prochaine, Mélanie.
Merci. Merci beaucoup, tous les auditeurs, d'être à l'écoute. On s'en va tout de suite rejoindre Cécile Dufour pour la capsule Santé Beauté de Viva.
La exploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.